Il est 6h, c'est lundi, je sais. Non, c'est pas cool. Mais l'avantage, c'est qu'il reste plus que 4 jours pour Carna, n'est-ce pas, Guillaume Abbé?
Je ne me prononcerai pas.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Et on commence la semaine par les news avec Guillaume Abbé qui nous présente le Flash. Bonjour Guillaume.
Bonjour. L'avenir des maisons de naissance est en partie menacé. C'est du moins la crainte de la députée verte Anne-Laure Métraud-Botteron. Elle a déposé au Grand Conseil un postulat demandant une meilleure reconnaissance des maisons de naissance, en particulier celles situées hors des hôpitaux. L'élu estime qu'au niveau légal, ces lieux d'accompagnement se trouvent dans un statut précaire. Les autorisations d'exploiter leur sont délivrées au compte-gouttes et certains nouveaux projets restent bloqués durant plusieurs années. Par ailleurs, la planification hospitalière du Conseil d'État mis en consultation l'an dernier insistait sur les risques pour la mère et l'enfant en cas de complications. De quoi inquiéter les défenseurs de ces structures qui n'en démordent pas. Anne-Laure Métraud-Botteron.
Ça permet aux femmes et aux futurs parents en général d'avoir plus d'options et puis je pense que c'est important que chaque femme qui va accoucher puisse accoucher là où elle a envie et là où elle se sent à l'aise. Que ce soit dans un hôpital ou dans une maison de naissance au final.
On sent des fois un peu un clivage, hein. Il y a vraiment un peu la team hôpital et la team maison de naissance, si on peut dire ça comme ça.
Ouais, j'espère qu'à terme ça va disparaître et puis qu'on puisse vraiment être libre du choix de l'accouchement et que les hôpitaux et que les sages-femmes et que les médecins puissent mieux collaborer ensemble pour vraiment finalement assurer le bien-être des femmes et des futures mères et des futurs parents.
Des propos recueillis par Alexandra Claude. La demande d'une meilleure reconnaissance des maisons de naissance hors milieu hospitalier a été soutenue par une trentaine de députés de tous bords politiques. Elle a donc été transmise à une commission du Grand Conseil pour examen. Photos, dessins, vidéos, de nouvelles installations trônent depuis quelques jours au manoir de Martigny. Elles alimentent l'exposition intitulée « Paysages oubliés, regard sur la plaine » à voir jusqu'au 22 mai. Julia Taramarca, curatrice du musée, nous explique pourquoi elle a choisi cette thématique.
L'exposition part en fait du constat que dans la région dans laquelle le manoir est inscrit, on est entouré de montagnes sublimes qui sont souvent ce qu'on regarde. On a toujours tendance à regarder vers le haut et ce projet d'exposition, c'est vraiment une invitation à regarder cette plaine qu'on oublie, qui est souvent notre lieu de vie, notre lieu de travail, le lieu dans lequel on se déplace et qu'on oublie souvent de regarder. Donc le manoir a invité 4 artistes et collectifs d'artistes à présenter leur travail qui parle justement de cette plaine et de ce point de vue particulier.
En écho aux travaux des artistes, des textes du sociologue Gabriel Binder et de l'architecte urbaniste Sandra Priot jalonnent l'exposition. De quoi porter un autre regard sur cette plaine du Rhône que beaucoup d'entre nous traversent tous les jours. Un sujet d'Alexandra Claude. La banque Crédit Suisse aurait pendant des années accepté comme client des autocrates, des trafiquants de drogue et d'êtres humains, ainsi que des criminels de guerre présumés, selon une enquête de plusieurs médias, parmi lesquels le journal britannique Guardian, le français Le Monde et l'américain New York Times. La banque Crédit Suisse conteste ces accusations. Pour la première fois depuis presque 2 ans, les bars et les discothèques ont connu un week-end de fête sans mesure de lutte contre le coronavirus. La commission suisse des bars et des clubs tire un bilan extrêmement positif. La levée des mesures a été particulièrement importante pour les jeunes, a expliqué Alexander Büchli, directeur général de la commission. Et à l'étranger, Vladimir Poutine et Joe Biden ont accepté aujourd'hui de se rencontrer. Ce sommet proposé par Emmanuel Macron se déroulera à la condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu d'ici là. Cette annonce surprise intervient alors qu'une guerre était donnée pour imminente par plusieurs médias américains notamment. Et d'ailleurs, des images satellitaires montrent de nouveaux déploiements de troupes russes et de matériel militaire à la frontière ukrainienne, a assuré hier une entreprise américaine. Ces nouvelles photos semblent montrer des traces de véhicules traversant des champs enneigés et on peut y voir aussi plusieurs bâtiments. Le président de République dominicaine a lancé hier en grande pompe la construction d'un mur de 160 km. Il s'étendra le long de la frontière de son pays avec Haïti. Ce projet controversé doit, selon le président dominicain, aider à contrôler l'immigration clandestine et le crime. Camion remorqué, manifestants arrêtés. La police avait quasiment repris hier le contrôle du centre d'Ottawa, paralysé durant 24 jours par des camionneurs s'opposant à la politique sanitaire du gouvernement canadien. Les autorités ont indiqué en milieu de matinée avoir procédé à l'arrestation de 190 manifestants et remorqué une 50aine de véhicules. L'Australie a rouvert aujourd'hui ses frontières extérieures à tous les touristes vaccinés. Cette ouverture intervient presque 2 ans après l'imposition de restrictions sur les voyages parmi les plus sévères au monde pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le nouveau réseau social de Donald Trump, Truth Social, va être progressivement mis en ligne cette semaine. Il devrait être complètement opérationnel d'ici fin mars, plus d'un an après l'exclusion de l'ancien président américain des grandes plateformes. La reine Elisabeth II, 95 ans, a été testée positive au Covid-19. Elle ne présente toutefois que des symptômes légers, comparables à ceux d'un rhume, a annoncé hier le palais de Buckingham. Et en sport, le match qui opposait hier le BBC 3 Torrents à Genève Elite a tourné à la faveur des Chablaisiennes. Dans cette demi-finale de la Coupe de Suisse féminine, elles ont largement emporté sur le score de 80 à 40. Les Jeux Olympiques de Pékin ont officiellement pris fin hier après-midi. Après 2 grosses semaines de compétition, d'exploits et de déceptions, ces 24e Olympiades d'hiver se sont achevées par la cérémonie de clôture organisée dans le fameux stade du Nid d'Oiseau dans la capitale chinoise. Notre envoyé spécial sur place, Christophe Morion, y a assisté. Il revient sur cet ultime événement de la quinzaine olympique.
Le rideau est donc officiellement tombé sur ces Jeux Olympiques de Pékin. Ils se sont achevés cet après-midi comme ils avaient commencé 16 jours plus tôt par un magnifique show au stade olympique mis en scène par le directeur artistique chinois Zhang Yimou. Durant un peu plus d'une heure et demie, les discours des officiels et les tableaux réalisés par plusieurs milliers de figurants amateurs se sont succédés. Principaux acteurs de ces Jeux Olympiques, les athlètes encore présents en Chine ont évidemment été célébrés. Toutes les délégations participantes se sont ainsi réunies sur le parterre composé de 11 600 mètres carrés de panneaux LED. Un hommage amplement mérité a également été rendu à tous les bénévoles qui ont permis la réussite de ces JO malgré les conditions sanitaires que l'on connaît. Et qui dit cérémonie de clôture dit aussi passage de témoins. Les villes de Milan et Cortina, qui organiseront les prochaines Olympiades d'hiver en 2026, ont ainsi également été grandement à l'honneur. L'hymne italien a notamment résonné dans la nuit de Pékin. La fête s'est finalement terminée en beauté et non sans émotion par un impressionnant show pyrotechnique. Si la flamme olympique est maintenant éteinte, Pékin peut se targuer d'avoir su mener à bien ces Jeux malgré les doutes qu'ils engendraient au départ. La capitale chinoise est désormais la seule ville au monde à avoir accueilli aussi bien les JO d'été que ceux d'hiver.
Et sachez que tout n'est pas encore complètement fini à Pékin puisque les Jeux paralympiques se tiendront du 4 au 13 mars prochain. En football, le FC Sion a mis un terme à la série victorieuse du FC Zurich. Hier, lors de la 22e journée de Super League, les Valaisans ont freiné le leader qui a arraché in extremis un nul 1-1. Les Sédunois ont par ailleurs livré une performance défensive très solide à Tourbillon. De leur côté, les Young Boys n'ont pas profité de ce nul du FC Zurich. Les Bernois ont fait 2-2 au Letzigrund contre Grasshopper et restent à 10 points du leader.